Chers frères et sœurs et chers amis. Chers frères et sœurs et chers amis. Aujourd'hui, nous arrivons à l'étude numéro 2 concernant le fondement de la révélation. Et le titre pour aujourd'hui sera « L'origine du mal ». L'origine du mal. Hélas, l'harmonieuse unité des globes fut tout à coup rompue. Dans cet univers promis aux plus hautes destinées et créé par Dieu pour servir de vase à sa gloire, voilà qu'une rupture intervint. Le péché s'insinua et se dressa voulant faire échec au plan de sainteté et d'amour établi par le Créateur pour la révélation de soi-même. Il s'introduisit dans le monde céleste au-dessus par la rébellion née au sein des anges. Sur la terre, il y amena la dévastation consécutivement à la chute d'Adam et Ève et au péché ultérieur de toute l'humanité adamique. Notez Genèse chapitre 3 versets 1 à 7 ainsi que les versets 17 et 18, chapitre 2 verset 15 et Romains chapitre 8 verset 20. Comment cela fut possible ? Comment cela a pu vraiment avoir lieu? Pourquoi Dieu le permit-il? Personne ne peut à cela donner une réponse satisfaisante, car nous sommes limités comme êtres humains et nous ne savons pas tout, même ceux qui pensent qu'ils ont tout découvert. L'origine du mal demeure un mystère. Et les quelques indications de l'Écriture sainte ne peuvent être regardées que comme simples suggestions. Premièrement, nous avons Satan avant la chute. Oui, déjà avant la chute, il y avait Satan. Le royaume universel de la création est divisé en un certain nombre de provinces dont l'organisation matérielle et spirituelle est impartie à un prince ou ange bien déterminé. C'est ainsi que la Bible mentionne des anges pour les enfants. Saint Matthieu, chapitre 18, verset 10. Des anges pour les adultes, comme pour vous et moi. Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 15. Et pour les territoires des nations, comme par exemple la Perse, Daniel chapitre 10, verset 13. Pour la Grèce, Daniel chapitre 10, verset 20. Ou pour Israël, chapitre 10 de Daniel, verset 21, ainsi que le chapitre 12, toujours de Daniel, verset 1. Et tout n'est pas noté dans ce que je viens de vous dire. Il en découle donc qu'il existe des organisations d'anges dans le monde de lumière comme dans celui des ténèbres. Ils détiennent le pouvoir dans certaines régions, tenant des rangs différents selon l'importance de leur territoire respectif. Effectivement, saint Paul parle de trône, gouvernement, de principauté et autorité dans le monde invisible, selon Colossiens chapitre 1 verset 16 et notez Éphésiens chapitre 1 verset 21. Avant sa chute, Satan était sans doute un de ces anges très spéciaux. il était chargé d'une région puissante. Cela paraît découler de la position d'autorité qu'il détient aujourd'hui encore. Le fait qu'il agisse sur la terre suggère que la région qui lui fut impartie, incluant au moins la terre avec l'atmosphère qui l'environne, et ceci trouve de plus une confirmation définitive dans la sainte parole de Dieu. Le Seigneur Jésus lui-même désigna Satan comme le prince de ce monde. Notez, s'il vous plaît, Saint Jean, chapitre 12, verset 31, chapitre 14, verset 30, et le chapitre 16, verset 11, toujours de Saint Jean. Quant à Saint Paul, il l'appela le prince de la puissance de l'air, selon Éphésiens chapitre 2, verset 2. Lors de la tentation au désert, lorsque Satan offrit à Jésus-Christ les royaumes de la terre, disant « Je te les donnerai avec toute leur puissance et leur gloire, car elles m'ont été données ou imparties, et je les donne à qui je veux. » Saint Luc, chapitre 4, verset 6. Notre Seigneur reconnut cette autorité, et cela à tel point qu'il ne contesta nullement le pouvoir que a le diable de disposer des royaumes du monde et de la gloire. Saint Matthieu, chapitre 4, verset 8 à 10. Notez aussi Apocalypse, chapitre 11, verset 15. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera, croyez-moi, au siècle des siècles, dans toute l'éternité. Alléluia. Là, vous pouvez aussi noter Apocalypse, chapitre 19, verset 6. Et là, il vous est montré que jusque-là, le royaume du monde appartient à un autre, c'est-à-dire, pour l'instant, au prince de ce monde. Et nous comprenons ainsi pourquoi l'archange Michel, rappelez-vous, lorsqu'il contestait avec le diable au sujet du corps de Moïse, il n'a prononcé contre lui aucun jugement injurieux, il ne l'a pas insulté, mais il a simplement dit « Que le Seigneur te réprime. » Jude, verset 9. La position de gouverneur sur cette région de l'univers, Satan la conserva en effet même après Golgotha et la Pentecôte, ce qui faisait dire à l'apôtre Jean que le monde entier repose dans le malin. Premier épître de Saint Jean, chapitre 5, verset 19. De son côté, Saint Paul mentionne à plusieurs reprises l'autorité de Satan. Notez Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 18, Colossiens, chapitre 1, verset 13, et Éphésiens, chapitre 2, verset 2. Employons ainsi le mot grec « exousia », ce même mot qu'il emploie en Romains, chapitre 13, verset 1 et le verset 2. Et cela pour désigner les officiers romains. Il est donc aisé d'en conclure que la sphère d'influence de Satan équivaut à un royaume. Saint Matthieu, chapitre 12, verset 26. Deuxièmement, nous avons la chute de Satan. dans les temps qui ont précédé notre histoire, il a dû y avoir un moment où, renonçant à obéir au Très-Haut, à Yahvé l'Éternel, à El Shaddai, ce prince du monde qui s'appelle Lucifer, qui est le porteur de lumière de la gloire divine, c'est ce qu'il était. Qu'il était autrefois et tout à coup devenu l'adversaire de Dieu et le calomniateur. Le calomniateur de ses saints. Donc, depuis lors, une puissante brèche a comme fissuré le cosmos et un royaume satanique organisé, très organisé, a vu le jour en opposition au royaume universel de Dieu. Notez Saint Matthieu chapitre 12, verset 26. Satan s'est donc entouré de princes et d'autorités. Daniel chapitre 10, verset 13 et le verset 20. Et notez également Éphésiens chapitre 6, verset 12. Dès lors, le thème et le sujet essentiel de l'histoire universelle tel que l'esquisse l'Écriture sainte ne pouvait plus être que l'antagonisme qui le dresse contre le royaume de Dieu. La description que Ésaïe fait de la chute du roi de Babylone semble bien, comme le supposaient déjà les rabbins, inclure dans sa perspective la chute de ce puissant prince de lumière. Il est dit, « Comment es-tu tombé du ciel, toi, astre brillant, toi, fils de l'aurore? Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, « Je monterai au ciel. Oh, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. » Je m'assiérai sur la montagne de l'Assemblée, je serai semblable au Très-Haut, mais tu as été précipité dans le séjour des morts, oui, dans les profondeurs de la fosse. Ésaïe, chapitre 14, versets 12 à 15, selon une version allemande. Donc, Ézéchiel aussi semble tirer de cet événement préhistorique. Je répète, cela a été au temps préhistorique sa description de la chute de Tyr. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse. Tu étais parfait en beauté. Oui, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Attention, comme l'ont montré nombre de commentateurs, Éden, le jardin de Dieu, ne doit pas être confondu avec le jardin en Éden mentionné par la Genèse. Ce dernier est un lieu géographique précis en Mésopotamie. Le premier se rapporte à la création première, bien avant. Et après avoir souligné cette distinction, Torrey, un professeur en théologie réputé, dans son livre « Ce que la Bible enseigne », page 532, remarque que le jardin d'Adam était remarquable par sa magnificence végétale. Mais celui de Satan, était remarquable par sa splendeur minéralogique et invite à le comparer à la description de la nouvelle Jérusalem. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Il a été créé. Ce n'est pas la même chose que pour Jésus-Christ. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intégré dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Je te précipite maintenant de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, toi, chérubin protecteur. Ézéchiel, chapitre 28, versets 12 à 15 et le verset 17, toujours selon une version allemande. Donc, ces quelques textes mis à part, l'Écriture sainte ne dit presque rien, absolument rien au sujet de la chute de Satan et rien du tout d'une manière directe. Son but, voyez-vous, n'est pas de donner une vue systématique du monde ou de l'éternité, mais plutôt de montrer, par le moyen de l'histoire et de la prophétie, le chemin qui mène à la rédemption. Aussi ne parle-t-elle de l'origine du mal que d'une manière indirecte, comme un arrière-plan. On peut dire un arrière-plan qu'elle suggère figurativement et quasi accidentellement. Donc les choses cachées, elles demeureront toujours à l'Éternel. Elles lui appartiennent. Il n'a pas besoin de tout nous révéler pour l'instant. Notez Deutéronome, chapitre 29, verset 29. Chapitre 29, verset 29. Il n'en est pas moins vrai, chers amis, que Jésus-Christ et les apôtres ont cru, et comment, à l'existence personnelle de Satan. Matthieu, chapitre 4, versets 1 à 10, chapitre 12, verset 27, Saint Luc, chapitre 10, verset 18, Romains, chapitre 16, verset 20, 2 Corinthiens, chapitre 11, versets 14 et 15, ainsi que die Offenbarung, donc Apocalypse, chapitre 12, verset 2 à 9, chapitre 20, verset 2 et le verset 10. Je vous cite toujours des versets bibliques qui vont avec ces études pour éviter des malentendus et éviter que vous puissiez penser, tiens, cela est simplement une théologie selon cet homme qui parle maintenant. Mais pas du tout. C'est la sainte parole de Dieu. Je ne me base que sur la sainte parole de Dieu et pas sur des philosophies étranges. Impossible à qui ne partagerait pas cette conviction des premiers chrétiens de comprendre le Christ et ses apôtres. Souvent, voyez-vous, l'homme rejette l'idée de l'existence du diable tout simplement parce qu'il a à l'esprit la représentation populaire, rébarbatif, un peu folle et grotesque qu'on en a fait au Moyen-Âge. Or, de son côté, la Bible nous le présente comme un esprit excessivement puissant, doué d'une grande intelligence, bien qu'il ait tombé. Et, contrairement à toutes les théologies tronquées, philosophies inquiétantes, ce n'est pas du tout un diable avec des cornes et une queue. C'était le plus beau que vous pouvez imaginer. Et encore, ce que vous pouvez imaginer est loin, très loin de la réalité. L'existence d'un tel être est philosophiquement inattaquable. Troisièmement, nous avons le premier péché et l'état du monde. Voyez-vous, à la chute de Satan, il fut associé, ou plutôt, il nous faut associer la ruine de la région sur laquelle il règne. Donc cela est rendu évident par la relation organique qui lie l'esprit à la matière, ainsi que par la chute ultérieure, je dis bien, de l'homme, similaire bien que moins étendue dans ses conséquences. Notez Genèse, chapitre 3, verset 18. Donc les catastrophes universelles et les catastrophes terrestres qui ont suivi constitue la réponse à la justice divine, à cette révolte cosmique. La création fut alors soumise à la vanité. Romains chapitre 8, versets 20 et 21. Quant aux détails, nous les ignorons totalement. Nous pouvons que imaginer, avoir les uns et les autres des philosophies personnelles à ce sujet. Une seule chose est certaine, la mort et la destruction ont fait rage sur la terre, dans le monde des plantes et dans le monde des animaux, et cela bien bien longtemps avant l'apparition de la race humaine. Les strates géologiques, pareil à un immense cimetière, en portant les traces évidentes. Beaucoup d'animaux des temps préhistoriques semblent bien avoir été des monstres terribles et voraces, doués d'un cruel pouvoir de destruction diabolique. Le témoignage de l'Ancien Testament s'y accorde. Il rapporte que la mission de l'homme n'était pas seulement de cultiver le jardin, mais encore de le garder. Le fait pour l'homme était d'être tenté par une puissance extérieure hostile et totalement opposée à Dieu, et cela montre que le mal n'a pas pris naissance premièrement en l'homme, mais a existé à une autre création déjà précédemment à sa chute et à la malédiction terrestre qu'elle entraîna. Et bien avant l'homme existait donc déjà dans la création une rupture et une désharmonie a eu lieu. Dans le passé le plus lointain comme dans le présent, il s'est trouvé des hommes de grande lucidité spirituelle pour affirmer que le travail des six jours de la Genèse chapitre 1 fut à proprement parler un travail de restauration. Voyez-vous, un travail de restauration, restaurer ce qui a été détruit dans tout le cosmos, plutôt que la création originelle de la Terre. Dans cette optique, on reconnaît pour tâche initiale de l'homme le nouveau gouverneur de la création, la reconquête de la Terre, maintenant renouvelée. Ainsi, par exemple, le professeur Betex dit que l'homme devait originellement reconquérir toute la Terre en qualité de vice-régent de Dieu. Le professeur Van Hoyn, il maintient lui aussi la théorie de la restauration, disant que la grande opération consistant à ramener toute la création à Dieu, elle commença avec l'homme. En lui, matière et esprit, se trouve l'esprit de Dieu, l'homme Jésus-Christ, fils de Dieu, a conduit à la victoire le conflit décisif qui opposait Satan à Dieu. Les conséquences en découlent d'elles-mêmes. La croix se dresse donc au centre de l'histoire universelle. Il faudrait donc placer les périodes géologiques avant le travail des six jours, qu'il s'agisse, écoutez bien, qu'il s'agisse de jours de 24 heures, ou qu'on y voit de longues périodes correspondant aux âges géologiques du développement de la Terre. Une réconciliation est ainsi rendue possible entre le récit biblique des origines du monde et les théories de la philosophie naturelle moderne. Pour d'autres, tout le développement serait une séquence continue et uniforme, sans que l'on doive y reconnaître l'entière destruction ou de restauration de la Terre. Ce serait, selon eux, un simple mais colossal processus distribué sur des périodes créatrices immenses et sous la direction divine et ultérieurement, à la chute de Lucifer. Et ce processus se serait déroulé suivant une méthode qui échappe totalement à la recherche scientifique. Même s'ils pensent qu'ils ont tout découvert, ils n'auront jamais le temps de découvrir, car la fin est proche et Dieu, par Jésus-Christ, va restaurer toutes choses. Ainsi donc, les formes de vie seraient-elles apparues en une graduelle ascension, sans exclure toutefois la possibilité d'intervention négative de la part de Satan. Indépendamment de tout lien de descendance avec le monde animal, l'homme serait enfin venu sur la scène des événements mondiaux, commençant sa course terrestre dans le jardin du paradis préparé expressément pour lui. Néanmoins, il ne peut y avoir de connaissances absolument certaines, car la pensée, plus encore que toute autre manifestation de notre présente existence, elle est troublée précisément par cet événement premier, le mal entrant dans le monde et conduisant au désordre, à la catastrophe. Toute la création de Dieu, originellement pure, est bonne. Nous ne pouvons donc nous forger une opinion tout à fait adéquate et trop certaine, ni quant au moment, ni quant aux faits eux-mêmes. La seule chose qui nous soit permise est de reconnaître le poids de ce mystère et d'agir en ce qui le concerne selon notre conscience et à la lumière de notre responsabilité. Donc, soyons assez humbles. N'hésitons pas de devenir humbles pour confesser ouvertement notre ignorance. Moi, je confesse la mienne. Sachant que la suprahistoire universelle ne peut être appréhendée par les pensées terrestres. Notre intellect, trop souvent, voit les choses éternelles comme apparemment contradictoires pour la seule raison que tomber dans le péché et l'esclavage, il est lui-même en opposition aux lois de l'autre monde. Aussi n'y a-t-il rien qui soit plus irrationnel que le rationalisme. Quiconque veut jeter un regard dans les secrets de Dieu doit être revêtu de ce triple ornement de l'humanité, du respect et de la foi. L'âme, notre âme, qui expérimente ces choses, peut seule confier au Très-Haut, et cela dans la paix et le repos, toutes les choses qu'il ne lui a pas paru utile de nous révéler. Et notez Romains, chapitre 11, versets 33 à 35, ainsi que Job, chapitre 38, versets 4 et 7. Dans l'éternité, croyez-moi, tout sera rendu clair. Lorsque notre Seigneur viendra, tous les voiles disparaîtront. 1 Corinthiens, chapitre 13, versets 9 à 12. Et jusqu'à ce jour-là, c'est dans l'espérance que nous l'attendons. Deuxièmement, nous avons la vocation de l'humanité dans le paradis. Dieu a établi l'humanité sur la terre. En Éden, il a planté un jardin merveilleux qui devait faire les délices et le plaisir de son possesseur. Éden veut dire en effet terre de délices, agrément, charme. Le paradis était le commencement du chemin que Dieu se proposait de faire parcourir à l'homme ici, sur la terre. Celui qui discute ou rejette cette histoire des premiers commencements est par là en opposition avec l'autorité absolue du Seigneur et de ses apôtres. Il fut donc, en fait, premièrement le foyer d'une indescriptible béatitude. Deuxièmement, le point de départ d'une mission glorieuse. Troisièmement, l'arène d'un gigantesque conflit. Quatrièmement, la scène d'une chute tragique. Et dès lors, cinquièmement, le but nostalgique de l'attente humaine. Donc, il fut, premièrement, le foyer d'une indescriptible béatitude. L'homme nouveau, seigneur de la création terrestre, régnait majestueusement sur le jardin. Tout le travail de ses mains prospérait. Les fleurs s'épanouissait avec une beauté que l'homme n'a plus jamais contemplée. Et les arbres portaient des fruits les plus savoureux, 10 fois, 20 fois plus merveilleux qu'aujourd'hui, dans le règne végétal comme dans le règne animal, prévalait un merveilleux souffle de paix céleste. Bien plus, le Créateur de l'univers lui-même entretenait avec l'homme une relation sans ombre aucune, lui offrant la joie de sa présence bénie. Notez Genèse, chapitre 3, verset 8. On ne peut savoir avec certitude où était situé le paradis terrestre. On a suggéré l'Arménie, ou peut-être le désert arabo-syrien. Mais, de toute façon, Dieu n'a pas placé l'homme dans le paradis pour sa seule satisfaction. Il l'y a placé pour le cultiver et produire du fruit. Le jardin était donc, deuxièmement, le point de départ d'une mission glorieuse. Nous avons donc l'homme en tant qu'individu. Du point de vue de l'histoire du salut, Dieu, le monde et l'homme sont les trois réalités essentielles de tout ce qui existe. Il appartient à notre entendement de les distinguer. Une triple connaissance a donc été accordée à l'homme, conscience de Dieu, du monde et de soi. Et pour cela, le Créateur nous a donné les éléments qui rendent possible cette triple connaissance. L'homme prend conscience du monde à travers les sens, le goût, l'odorat, la rate, le toucher, l'ouïe et la vue. Tout cela mis en exercice par les organes corporels, le palais, le nez, les nerfs, l'oreille et les yeux. C'est à travers le corps que nous atteignons la conscience matérielle ou sensorielle. Nous reconnaissons l'ego à travers l'âme, car l'homme est bien plus qu'un chaînon. Fut-il remarquable de la nature externe, il est doué de volonté, de discipline et d'une personnalité individuelle. C'est pas du tout à comparer avec un rat. C'est directement à travers sa propre essence intérieure, c'est-à-dire son âme, qu'il atteint la connaissance ou la conscience de soi-même. Pardon. Enfin, pour qu'il puisse s'élever jusqu'au Créateur, Dieu lui a donné l'esprit. Ah, ça change tout. À travers l'esprit, l'homme atteint la connaissance et la conscience de Dieu. Ce n'est pas pareil pour le rat. Ainsi, l'homme est une trinité dans l'unité, ou pour mieux dire, une triunité. Donc, son être intérieur, invisible, se compose de deux réalités qu'il convient de distinguer très clairement. La parole de Dieu est pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, selon Hébreux, chapitre 4, verset 12. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, Et vous pouvez noter Saint-Luc, chapitre 1, versets 46 et 47. L'esprit est la partie de notre personnalité dirigée vers le divin et vers le suprasensoriel. L'âme, par contre, l'âme, comme constituante inférieure de notre homme intérieur, a comme objet le terrestre et tout ce qui est créé, tandis que l'esprit élève à la conscience de Dieu, l'âme n'atteint que la conscience de soi-même, et encore, n'y parvient qu'avec l'aide de l'esprit. Les saintes écritures enseignent que le corps doit être un temple pour le Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19. Un sacrifice ou un culte raisonnable pour le service de Dieu. Romains chapitre 12 verset 1. Un instrument de justice. Romains chapitre 6 verset 13. Un moyen de glorifier Dieu. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 20. Et une semence pour le corps spirituel à venir. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 43 à 47. Le tabernacle est une image de cette triunité de la personnalité humaine. Le chrétien se trouve dépeint en une figure analogue et son esprit est le sanctum sanctorum, c'est-à-dire le lieu très saint. C'est l'habitation de Dieu dans les ténèbres où la foi croit sans voir, ni sentir, ni toucher. Et l'âme est le sanctum ou le saint. Là se trouvent sept lampes, c'est-à-dire toutes sortes d'entendements, discriminations, connaissances et perceptions des choses visibles. Le corps, c'est l'atrium, le parvis, manifeste chez tout homme de telle manière que l'on puisse voir ce qu'il fait et comment il vit. Ainsi donc, dans la nature de l'homme se correspondent la conscience du monde, le corps et l'atrium, le parvis, la conscience de soi, l'âme et le lieu saint, la conscience de Dieu, l'esprit et le lieu très saint. Je répète, ainsi dans la nature de l'homme se correspondent premièrement la conscience du monde, le corps et l'atrium, le parvis. Ensuite la conscience de soi, l'âme et le lieu saint. Troisièmement, la conscience de Dieu, l'esprit donc, et le lieu très saint. C'est donc du lieu très saint de l'esprit que Dieu gouverne l'âme et le corps. C'est donc là que repose, pareil à l'arche de l'Alliance, la loi divine immuable préservée en la conscience. C'est le lieu effectif de la révélation du Dieu très haut en nous, de même que dans le tabernacle. Dieu habite au-dessus des chérubins. La présence intérieure de l'Esprit de Dieu dans le régénéré est elle-même semblable à la nuée de gloire, la Shekinah, dont le trône de grâce était alors habité. Le trône de Dieu en nous est en effet non point un trône de jugement, mais un trône de grâce et le sceptre de la souveraineté. Ça, c'est le salut. Comme le tabernacle, nous pouvons, habitation momentanée du pèlerin que nous sommes, traverser le désert du monde jusqu'au bout. Jusqu'au bout, la Canaan céleste. Oui, l'éternité. 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 1 à 4. Sachons donc que telle est la vocation de l'homme, nous pouvons comprendre pourquoi le premier chant poétique de la parole de Dieu se rapporte précisément au récit de la création de l'homme qui est la couronne de la création. C'est ainsi que l'Écriture sainte célèbre la création de l'homme triunité, œuvre merveilleuse du Dieu tri-un, triun, par une triple rime de pensée, c'est-à-dire un triple. Premièrement, et Dieu créa l'homme à son image. Deuxièmement, il le créa à l'image de Dieu. Troisièmement, il les créa mâle et femelle. Genèse chapitre 1, verset 27. Mes chers auditeurs et auditrices, nous continuons notre étude demain, car elle est un peu trop longue pour pouvoir avoir la place sur ce CD. Donc, nous continuons demain la vocation de l'humanité dans le paradis. Toujours selon le fondement de la révélation. Nous allons donc, si vous voulez bien, terminer pour le moment, pour l'instant, par la prière, et je vous mettrai un ou deux chants, si ça fonctionne. D'il y a 50 ans, quand j'avais fondé une mission sur cassette, mais ces cassettes sont usées et je m'excuse de la qualité, mais l'essentiel de recevoir, de pouvoir recevoir der Kern, l'essentiel, le point principal de ce qui peut nous toucher, toucher notre âme et notre esprit. Prions donc maintenant. Seigneur, chaque jour est pour l'homme un jour de combat pendant lequel son âme est assaillie par de dangereux ennemis. S'il ne s'est pas défendu contre eux, s'il s'est laissé dominer et vaincre, il a pu passer ce jour dans une paix trompeuse, il a pu se sentir satisfait et se livrer sans trouble à mille joies mensongères. Mais si éclairé par les lumières de la foi, il a su discerner ce qui se passait en lui et reconnaître les dangers qui l'environnent, alors il a dû lutter péniblement, il a connu l'effroi, la fatigue, il a senti des blessures et de la douleur, ses forces ont été plus ou moins épuisées, et s'il a combattu en fixant ses regards sur son divin maître, il a remporté la victoire et demeure vainqueur. Voilà donc la vie du chrétien, voilà le combat de la foi. Nous est-il donné de le reconnaître, ou cédons-nous sans résistance et sans effort à la domination de l'ennemi qui nous poursuit sans cesse? Oh, tu le sais, ô Dieu, tu vois si dans les tentations toujours renaissantes, ou dedans et au dehors de nous, nous sommes fidèles à combattre en regardant à toi. Tu vois si nous savons nous revêtir de toutes les armes de Dieu, afin qu'ayant tout surmonté, nous demeurons fermes, ayant la vérité pour ceinture, étant revêtus de la cuirasse de la justice, ayant pour chaussures les dispositions que donne l'évangile de paix, et prenant le bouclier de la foi, par le moyen duquel nous puissions éteindre tous les traits enflammés du malin, prenons aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la sainte parole de Dieu, faisons en tout temps des prières et des supplications, veillons à cela avec persévérance. Oui, à celui qui vaincra, dit le Seigneur, je le ferai asseoir sur mon trône comme moi-même. J'ai vaincu, moi, et je suis assis avec mon Père sur son trône. Mais qui est victorieux du monde? Oui, qui? Celui-là seul, chers amis, qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, car la victoire par laquelle le monde est vaincu, c'est notre foi. Seigneur, augmente-la. Cette foi en nous, aide-nous dans notre incrédulité, rends-nous victorieux en nous rendant fidèles, afin que jusqu'au dernier jour, nous puissions combattre le bon combat. Permets à tes faibles créatures que nous sommes de se placer sous ta sainte protection à la fin de cette journée que tu as daigné leur accorder, de nous accorder. Exauce, Seigneur, les prières que nous t'offrons pour nos familles et nos amis. Aie pitié des malades, des pauvres, des affligés, et daigne nous attirer de plus en plus à toi. Amen. Et chers amis, je vous mets quelques chants, comme j'ai dit qu'il y a plus de 50 ans. Et à demain, la suite de cette étude. Au revoir, mes très chers amis.
On the very last day, or when they hear that bell, or ring the world away, everybody gonna pray to the heavens on the judgment day. Well, one day soon all men will stand, his word will be heeded in all the land. Men shall know and men shall speak, we all are brothers and we all are free. Mankind was made of clay, same way. Get ready, brother, for that day. Everybody gonna pray on the very last day. Oh, when they hear that bell, or ring the world away. Everybody gonna pray to the heavens on the judgment day. Well, the law is given and the law is known. The tale is judgment day. Gonna pray.
Зачем ушел вдаль? Вернись, Христос зовет. Или ты не слышишь зова? Вернись, Христос зовет. Помни, ты встретил Христом Иисусом обеты твои и мольбу. И мольбу. Все ответы твои и мольбу. Где ты, заблудший, где ты? Сколько уж можно звать? Войди ковчег завета, чтобы не пришлось рыдать. Помни ты встречу Христом Иисусом, обеты твои мольбу и мольбу, и мольбу. Все ответы твои и мольбу.
Николай Иванович, Йоне.
Привет вам, Христову, цветущее время.